Le journal avec vous, bonjour Antoine Joffin.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Les quais de la Garonne fermés à Toulouse dès aujourd'hui et encore le week-end prochain. La préfecture veut éviter les attroupements comme hier, beaucoup de monde avec le beau temps et pas toujours avec un masque. Week-end de confinement dans les agglomérations de Nice et de Dunkerque. Dans le nord aussi, il fait beau. Les habitués des plages dunkerquoises sont allés bronzer sur les plages du Pas-de-Calais. Des milliers de personnes hier dans les rues de Fort-de-France pour demander que justice soit faite. Ils dénoncent l'empoisonnement au chlordécone, un pesticide autorisé jusqu'en 93 en Martinique. En Égypte, pas de touristes français à Louxor cet hiver à cause du Covid. L'économie de la cité durement touchée. Les Golden Globes, la nuit prochaine aux États-Unis, la grand-messe du cinéma. Les journalistes qui remettent les prix visés par une enquête. On leur reproche leur manque de probité. Et puis des chaînes Tourangeau pour la charpente de Notre-Dame de Paris. Il faut bien les choisir.
Et puis à 8h20, question ce matin, notre invité, l'écrivain Philippe Solers, pour sa double actualité littéraire. Deux livres, Agent secret aux éditions Mercure de France et Légende chez Gallimard.
France Inter. Les Toulousains privés de pique-nique et de bronzette en bord de Garonne aujourd'hui. Les quais du fleuve sont fermés ce dimanche. Ils resteront inaccessibles le week-end prochain. Décision de la préfecture. Trop de monde rassemblé hier au soleil, au bord de l'eau, sans distanciation. Nous n'avions plus le choix, explique le maire LR de Toulouse, Jean-Luc Moudinc.
Avec le préfet, on se concerte depuis quelques jours parce qu'on voit bien qu'avec le retour des beaux jours, les Toulousains vont sur les bords de la Garonne, ça c'est pas un problème, sauf que ils y vont malheureusement en s'agglutinant les uns à côté des autres et puis surtout en ne respectant pas les gestes barrières, en s'exonérant du port du masque. On a fait un communiqué en disant on renforçait les contrôles, on les a renforcés, mais il faut le dire, nous n'avons pas été entendus. Les policiers eux-mêmes se sont heurtés à des masses de personnes qui refusaient de mettre en place les règles de protection. On voit bien qu'en ce moment, il y a un regain de la pandémie. Et donc, le regain de la pandémie avec de moins en moins de respect des gestes barrières et des phénomènes de rassemblement imprudents, ben forcément, ça nous alerte. On ne peut pas rester les bras croisés.
Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinc, avec Solène Cressant. À Bordeaux, le maire écologiste, pas convaincu par le couvre-feu à 18h, Pierre Urmic demande au gouvernement de revenir à 20h dans les territoires les moins touchés par la circulation du virus. Selon l'élu local, ces mesures contraignantes ne se justifient pas dans ces villes où il n'y a pas d'explosion de l'épidémie comme à Bordeaux. Dans les agglomérations de Nice et de Dunkerque, pas de couvre-feu mais un confinement ce week-end. Dans le nord, les habitués des balades sur la côte ont cherché des plages autorisées à la promenade. Certains se sont rabattus sur les rivages du Pas-de-Calais. Reportage à Ouaplage, signé Théo Baucher, France Bleu Nord.
La journée plage a failli très mal commencer pour Joachim et Alexandra. Ils sont venus de Lille pour profiter du bord de mer, mais...
On voulait passer la journée à Bré-Dunes et arrivé sur place, on s'est un peu rendu compte qu'il n'y avait personne. On s'est posé des questions et donc on s'est rendu compte que ça faisait partie de Dunkerque et qu'on n'avait pas du tout le droit d'être là. On n'a pas été très malin sur le coup là.
Heureusement pour eux, ils ne se sont pas fait contrôler. Donc direction les dunes du Pas-de-Calais à Ouaplage, où Sylvie et Damien ont déjà installé leur transat orange. Alors que d'habitude, ils ne viennent pas jusqu'ici.
En général, on va à la Panne ou Coxide, Nieuport, mais bon, comme on ne peut pas aller en Belgique, du coup on se rabat sur Bré-Dunes habituellement, mais là comme il y a le confinement du week-end, on s'est essayé de trouver une petite plage pour pouvoir quand même aller voir la mer et se détendre.
Et puis il y a les habitués de Ouaplage comme Sylvie qui y habite une semaine sur deux. Le reste du temps elle est à Gravelines, alors entre les deux elle a préféré venir ici pour échapper aux restrictions sanitaires.
Le fait qu'ici on ne soit pas confiné, de l'autre côté ils sont confinés, on se dit que nous on a de la chance finalement de pouvoir profiter alors qu'on est à même pas 10 km de la frontière du Nord-Pas-de-Calais.
Depuis Ouaplage, les promeneurs peuvent apercevoir la côte dunkerquoise et qu'ils viennent du Nord ou du Pas-de-Calais, tous craignent un confinement chez eux le week-end prochain.
Un photojournaliste du quotidien régional L'Union grièvement blessé hier à Reims alors qu'il était en reportage dans un quartier prioritaire Croix-Rouge. Il a été blessé à la tête, son pronostic vital est engagé.
10 à 15 000 personnes selon les organisateurs, 5 000 dit la police, tous rassemblés hier en Martinique dans les rues de Fort-de-France.
Les manifestants réunis par plusieurs associations martiniquaises et guadeloupéennes n'acceptent pas la possible prescription d'une plainte déposée il y a 14 ans pour empoisonnement au chlordécone. Ce pesticide avait été interdit en 90 en métropole, mais par dérogation ministérielle, il était toujours utilisé dans les champs de bananes de Martinique et de Guadeloupe, et ce jusqu'en 93. Francis Carole est conseiller exécutif à la collectivité territoriale de Martinique, dans le cortège hier, satisfait de la forte mobilisation.
C'est un grand succès que les gens ont répondu parce que la question est grave. Il ne peut pas y avoir de déni de justice. Il faut que ceux qui sont responsables soient jugés, punis Il faut donc un process, c'est très important. Et puis aussi, il faut passer aux réparations. Aux réparations concernant les sols, concernant l'eau, concernant la mer et concernant aussi les personnes, puisque ce scandale est aussi un scandale sanitaire absolu. Et il faut par conséquent, au lieu de chlordécone 1, 2, 3, 4 qui ne répondent pas à la hauteur de la situation, il faut une vision radicalement différente.
Des pancartes avec des images chocs, des tracts, des slogans. L'association de protection animale L214 manifestait hier devant les enseignes de restauration rapide Subway. C'était un peu partout en France. À Caen, les bénévoles de l'association se sont rassemblés devant le restaurant du centre-ville sur l'heure vers midi. Ils dénonçaient les conditions dans lesquelles sont élevés et abattus les poulets de l'enseigne. Reportage Léa Dubost de France Bleu, Basse-Normandie.
Kawé orange sur le dos, tract à la main, les bénévoles d'L214 s'adressent aux clients qui font la queue devant le Subway.
Bonjour monsieur, est-ce que vous avez eu le petit tract ? C'est pour les animaux. Alors on ne vous dit pas de stopper Subway, pas du tout. C'est juste un engagement qu'on demande à Subway pour mieux traiter en fait leurs poulets.
Recevoir une image de poulet ensanglanté juste avant de manger peut couper l'appétit. Alors qu'en pensent les clients ?
On se sent un peu coupable.
J'ai l'impression que tout le monde le sait, mais en fait on passe un peu outre, on s'en fout un peu quand on mange. Mais là du coup vu que c'est un peu choc, c'est intéressant, peut-être après certains vont arrêter.
C'est partout pareil quoi. La maltraitance dans les élevages de masse comme ça, c'est les fast-foods en général.
Vous avez mangé du poulet là ce midi ?
Je sais pas.
Le but n'est pas de pointer du doigt les clients, mais bien de faire remonter le problème plus haut.
C'est pas la responsabilité des consommateurs qui ne le savent pas en fait, ce qui se trouve dans leur sandwich au poulet.
Léo Lester, référent L214 à Caen.
Subway communique en disant que leur nourriture est fraîche et préparée devant leurs yeux, sauf que tout n'est pas préparé devant leurs yeux, on voit pas vraiment d'où viennent ces poulets. C'est des poulets qui sont entassés par dizaines de milliers dans des élevages intensifs qui n'ont aucun accès extérieur. C'est vraiment des conditions déplorables. 90% des Françaises et des Français qui sont contre ces conditions. Donc aujourd'hui, Subway doit prendre ses responsabilités.
La direction de Subway a réagi dans un communiqué. Le poulet que nous utilisons répond à toutes les normes européennes en matière de bien-être animal.
Le reportage de Léa Dubost de France Bleu Basse-Normandie. C'est la période normalement fin février, début mars pour les vacances d'hiver. Beaucoup de touristes français traversent la Méditerranée pour bronzer sous le soleil de Louxor en Égypte. Mais cette année, à cause du Covid, ils ne sont pas là dans la cité de la vallée du Nil. Louxor, qui dépend des voyageurs étrangers, pâtit de leur absence. Toute l'économie du tourisme est à l'arrêt dans la ville et la population en souffre. Reportage sur place, signé Martin Roux.
Dans la cour principale du temple de Karnak, les groupes de visiteurs sont très clairsemés.
Il y a les dieux Thoth.
Première visite en 2 mois pour Tarek Salem. Ce guide de 33 ans a travaillé seulement 15 jours en un an.
La ville a complètement arrêté. On ne travaille pas, on ne gagne pas.
Les autorités ont annoncé une aide de 50 euros à destination des guides. Dérisoire pour Tarek Salem qui comptait sur le retour de sa clientèle française.
Refermeture de frontières en France. On a pris ça comme un choc en fait.
La fermeture des frontières égyptiennes de mars a joint à stopper net l'embellie du tourisme miné après la Révolution. 13 millions de visiteurs en 2019 contre seulement 3 millions en 2020. Le tourisme de masse a laissé place à un chômage massif. Devant le temple de Louxor, 6 énormes bateaux de croisière restent amarrés aux berges du Nil. Cela faisait 8 ans qu'Ahmed Mohamed était réceptionniste sur le Champollion. Comme 60 de ses collègues, ce trentenaire a été renvoyé du jour au lendemain en mars.
Ici à Louxor, il n'y a pas d'activité industrielle. Tout le monde travaille dans le tourisme. Mes parents, mes amis, personne n'a de travail.
Dans son village voisin de Louxor, une centaine de jeunes hommes sont déjà partis au Caire pour travailler sur des chantiers. Un exode qui promet de s'amplifier si cette crise se prolonge jusqu'à l'hiver prochain. Louxor, Martin Roux, France Inter.
En Birmanie, la police a tué 2 manifestants et fait plusieurs blessés. Aujourd'hui, elle a ouvert le feu sur des manifestants à Rangoon et Dahwe, au sud du pays. Cela fait 27 jours désormais que la junte a pris le pouvoir en renversant par un coup d'état le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi.
Les Golden Globes, ce sera la nuit prochaine.
78e cérémonie un peu particulière aux États-Unis en mode virtuel entre Los Angeles et New York à cause de la pandémie forcément, contexte sanitaire exceptionnel, mais l'ambiance est aussi particulière cette année pour la presse étrangère d'Hollywood qui remet ses récompenses. L'association dont la probité a été souvent mise en cause ces dernières années est au cœur d'une enquête du Los Angeles Times qui fait beaucoup parler dans la Mecque du cinéma.
Kirsti Flø est une journaliste norvégienne spécialisée dans le cinéma. Malgré son CV, ses candidatures ont toujours été rejetées par l'association de la presse étrangère d'Hollywood. Alors elle a attaqué en justice ce groupe exclusif de 87 correspondants.
Ils ont peur de partager. Les studios leur offrent des cadeaux, les font voyager, les logent dans des hôtels 5 étoiles. Pourquoi voudraient-ils changer ?
Les membres de l'association traînent depuis longtemps une réputation de journaliste peu scrupuleux, se laissant facilement amadouer par les studios. Et la semaine dernière, le Los Angeles Times a révélé que cette organisation à but non lucratif avait des pratiques financières discutables. Stacy Perman, co-auteur de l'enquête.
L'an dernier, ils ont récupéré 27 millions de dollars pour les droits de diffusion de la cérémonie. Et s'ils donnent une partie à des charités, nous avons découvert qu'ils redistribuaient aussi beaucoup d'argent à leurs propres membres à travers des participations à de multiples comités ou des articles écrits pour le site.
Les Golden Globes restent pourtant l'une des cérémonies les plus courues de l'année, et ça ne surprend pas Béatrice Verhoeven du site The Wrap.
À Hollywood, l'argent est toujours roi. Or, quand les audiences des Oscars ou des Emmys continuent de baisser, celles des Globes restent stables à 18-20 millions de téléspectateurs.
À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Comment reconstruire Notre-Dame de Paris ? Pour la charpente, ce sera en partie du chêne. En Touraine, des propriétaires de forêts ont fait don d'arbres centenaires. Au total, en France, 300 chênes vont être abattus d'ici quelques jours. Quelques-uns ont été choisis cette semaine en forêt d'Amboise. Ces arbres doivent répondre à des critères bien précis, Romain Desec.
En bord de parcelle, Alexis Ménard scrute les chênes.
On a repéré un bouquet d'arbres avec un certain nombre qui sont relativement droits, un qui est sur notre droite et l'autre qui est un petit peu plus à gauche.
Le directeur de la coopérative Unisilva s'en approche pour en faire le tour. C'est là que les défauts apparaissent.
En fait, à partir de 5-6 mètres, on commence déjà à avoir une courbure et une deuxième courbure qui part dans l'autre sens. Donc en fait, cet arbre ne va pas correspondre vraiment aux critères sélectionnés parce qu'il va y avoir une longueur qui va être trop courte par rapport aux longueurs qui nous sont demandées pour reconstruire la charpente de Notre-Dame.
L'arbre, heureux élu, doit faire entre 5 et 21 mètres de hauteur. Justement, il y en a un à quelques mètres. Reste à connaître son diamètre.
Ouais, tu peux le mesurer celui-ci.
On sort le grand compas.
78.
Largement au-delà des 50 cm réglementaires, ce chêne est donc peint en rose.
Pour le repérer.
Sous les yeux d'Edouard, le petit-fils du propriétaire de la parcelle.
Quand on a su que la filière bois appelait les propriétaires à donner des chênes, il n'a pas du tout hésité. On est très fiers de le faire et on dira, vous voyez, cette belle forêt, on n'est pas à un arbre près, donc si on peut donner un petit peu, c'est avec grand plaisir qu'on le fait, beaucoup de cœur.
Un don de valeur, puisque les prix varient de 150 à 180 euros le mètre cube.
Romain Desec, France Bleu Touraine.
À 8h12, c'est l'heure des sports.
L'affiche de la 27e journée de Ligue 1 de football, c'est ce soir, l'Olympico OM-OL, c'est à 21h. Marseille qui a changé de président et d'entraîneur hier, et les Lyonnais de l'autre côté qui feignent d'ignorer les turbulences qui secouent le club rival. Ils avancent masqués quand leurs supporters parlent, eux, ouvertement du titre, Christophe Vincent.
À l'approche de l'Olympico, l'entraîneur de Lyon, Rudy Garcia, ne cite pas son ancien club volontairement. Son propos est dépassionné, feutré, très lyonnais, mais son ambition reste intacte.
C'est une course d'endurance, une course à 4 devant, et il faut être l'équipe qui gagne le plus de matchs. Peu importe qui soit en face, nous on veut continuer à gagner et ajouter une victoire consécutive à l'extérieur. Si on doit donner peut-être un repère aux joueurs, c'est d'être en mode Ligue des Champions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on joue, pour une qualification Ligue des Champions.
Garcia fait profil bas, mais pas les supporters qui s'émoustillent de ce sprint à 4. Quentin et Faisal rêvent tout haut du titre.
Disons que tous les week-ends, on attend les matchs. Avant, je ne regardais jamais Lille. C'est vrai que même à l'intérieur de la ville, on sent une alchimie. Je pense que c'est le contexte sanitaire qui fait aussi que les gens se raccrochent à quelque chose. On croit aux joueurs. Le podium idéal, ce serait l'OL. Je pense Lille et Paris, je ne sens pas le club très conquérant cette année.
Moi je vois Paris revenir, c'est une grande équipe quand même. En deuxième position, je verrais bien Lyon et en troisième position, je verrais bien Lille.
Déjà, il faut gagner au Vélodrome, jamais simple. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.